Joseph et la lumière. Vous avez indiqué que la problématique que je renseigne à ce sujet, par rapport au sujet qu'on a choisi, c'est les deux tentatives messianiques différentes à l'origine, qui sont destinées à se recouvrir, à se recouper, à se réconcilier, puisqu'elles sont en conflit tant qu'elles ne s'unifient pas, se mettent déjà en place dans les projets de la suite des engendrements, des Toladot, tant par Joseph que par Yehuda, et la Torah nous raconte intentionnellement, de façon très précise, la nature de ces deux tentatives. Ceci dit, c'était le sujet général que j'avais indiqué. Je vous avoue que je ne me souviens pas quelle partie de ce sujet on a traité. Est-ce qu'on a traité Joseph ou Judas ? Joseph. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu dans l'année, de telle sorte que rien ne reste obscur, le cas échéant, et puis je consacrerai une partie du cours à étudier le problème de Judas et de Tamar. Simplement, je vous rappelle, je crois que j'avais conduit l'analyse la dernière fois de manière de vous raconter que, vous expliquer que la Torah raconte ces deux tentatives, mais que l'intention, le kivoum de l'enseignement de la Torah est très clair, c'est de nous avertir à l'avance que la tentative de Joseph échoue et que c'est celle de Judas qui prend le relais. Et par rapport à nos problèmes contemporains, je pense que la question se pose de la manière suivante. C'est pas de savoir si la tentative de Joseph a un sens, elle a un sens indéniable, mais c'est de se poser la question de savoir dans quel temps on se trouve. Si on se trouve dans le temps de Joseph, c'est donc la tentative de Joseph qui est orthodoxe, en donnant à ce mot le sens simple. Si on se trouve dans le temps de Judas, alors la tentative de Joseph devient caduque, préhistorique, disqualifiée, dangereuse à combattre. C'est grosso modo ce que la Torah nous enseigne. Et effectivement, ça a été le diagnostic des frères de Joseph lorsque, au retour de l'exil de Jacob chez Laban, ils ont fait passer Joseph en jugement. Et je vous avais cité un certain nombre de sources qui sont très catégoriques. Normalement, Joseph est passé en jugement comme traître à l'histoire d'Israël parce qu'il veut reprendre le rêve des patriarches de cette tentative de la messianité dans la civilisation goy extérieure, alors que le récit de la Torah, qui commence avec l'histoire d'Abraham, prend ce récit au moment où cette tentative antérieure à l'histoire des patriarches avait échoué à Ur Kasdim. C'est pas pour rien que la Torah commence le récit de la famille d'Abraham à la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim, de ce que je vous ai appelé à l'époque la Shoah d'Ur Kasdim, puisque d'après le récit de la Torah et d'après Midrash, c'est très clair. Une seule famille des Hébreux qui se trouvait à Ur Kasdim est sauvée, la famille d'Abraham. Et vous avez dû remarquer à quel point, c'est toi qui m'avais fait remarquer ça, on en a parlé, toute l'histoire de la Torah concerne une famille. Toutes les branches de la famille, c'est la même famille à l'origine. C'est Terah, Nahor, Haran, Nahor, c'est donc celui qui est resté. Et Laban, Ishmaël sort d'un côté, Esav sort de l'autre, et puis de la même manière qu'on a la sortie d'Égypte, toute la sortie d'Égypte tourne autour d'une famille, la famille de Moïse, Aaron et Myriam. Et on voit bien à quel point le Midrash l'indique, mais on a perdu la mémoire, il y a une Shoah considérable à Ur Kasdim, il y a une Shoah considérable en Égypte. C'est l'histoire des rescapés. Et je reviens donc à ce que je disais. On a pris l'habitude à travers les siècles d'étudier ces textes au niveau du moussard de la vie privée, de la vie individuelle, le problème de la vie individuelle, de la justice, et tout ça garde sa valeur, c'est indéniable dans la Torah. Et l'intention du chef de la Torah, c'est de nous expliquer l'histoire de tout la Torah, et par conséquent, comme nous nous trouvons dans une époque historique où la question semble de nouveau se poser pour, disons, un très grand nombre, sinon pour le plus grand nombre. Alors il me semble, peut-être qu'on pourrait commenter avec M. Rachid, si vous voulez, que, encore une fois, la question n'est pas si la tentative de Joseph a un sens, une fonction, une justification, c'est indéniable. Mais en son temps, la question est véritablement de savoir en quel temps on se trouve. Tant que c'est le temps de Joseph, c'est Yosef qui est le tzadik. Si c'est le temps de Moshe, c'est Moshe qui est le prophète. Voilà, je crois que c'est la manière la plus simple d'aborder ce problème. Et je vous rappelle d'ailleurs, ça nous l'avons dit peut-être plusieurs fois, c'est très important de le mettre en évidence, la personnalité, l'identité, la ishiyut de Moshe Rabbeinu et de Yosef, c'est la même inversée. Joseph, c'était l'hébreu qui se déguise en égyptien pour jouer son rôle comme il le voit, la messianité à l'extérieur, enfoui, perdu, on ne sait même pas où il est, dans la civilisation des Goïm, et au titre de la civilisation des Goïm, lorsque Judas va déclencher la scène de la reconnaissance personnelle, il arrive que Joseph puisse apparaître comme prenant le parti de Pharaon contre Israël. Et Moïse, c'est ce hébreu déguisé en égyptien qui enlève l'habit égyptien, qui reprend l'identité hébraïque. C'est un relais que prend Moïse à partir de la fin de l'histoire de Joseph. C'est indiqué par le fait que Moïse, pour pouvoir sortir des Juifs, doit ramener avec lui les ossements de Joseph. Oui, tout de suite, la Torah l'a mis, dès le début du livre de Genèse, il ne s'occupe pas d'autre chose. Il s'occupe de chercher l'accueil de Joseph pour pas qu'il reste une trace de cette présence. Puisque l'on sait que les Juifs ont l'habitude d'adorer ces traces-là et d'en faire des idoles. Je l'ai parlé une fois pour le remplacement de la Torah. Et on adore Israël dans la majorité de Joseph, on l'adore en Israël, et c'est les Juifs qui payent le prix, puisque dans ce mythe chrétien, l'empêcheur de recommencer le mythe Joseph au temps de la destruction par Rome, au moment de la naissance du christianisme, le mythe chrétien le nomme un certain Judas, comme par hasard. Et le christianisme, à sa naissance, est anti-judaïque, anti-juif par principe. Je crois que le livre le plus antisémite qui a existé en littérature mondiale, c'est pas la Bible, quelles que soient les apparences, c'est les évangiles. Je ne sais pas si vous comprenez toutes les implications de ce problème. Voilà donc de quelle question on est passé. Je vous ai un peu expliqué les dangers de la tentative de Joseph, cette volonté de chercher la suite des Toladot à l'extérieur. Le danger s'appelle la fin de Potiphar. Et alors, le temps qui nous restera, on étudiera la tentative de Judas. Je vous ai peut-être indiqué, en français, on est aidé par les termes français, Joseph, c'est la recherche de la réussite de l'idée de Patriar à l'extérieur. C'est tout simple. Alors que c'est Judas, c'est de rechercher le recommencement dans l'extérieur. On a tout dit. Vous avez les retenues extérieures en péril. Oui, tu avais une question.
Vous avez dit que
il faudra que tu revoies là. Heureusement que c'est enregistré. Il ne semble pas que j'ai bien indiqué Joseph les orthodoxes. J'ai peut-être bien indiqué que. La tendance orthodoxe se rattache à une question de la diaspora, c'est-à-dire Joseph. Mais dans l'histoire de. Et je vous ai peut-être parlé des yeshivos de Or Yosef. Or Joseph, je ne sais même pas Or Yosef. Ils ne s'en rendent même pas compte. tu vois ce que je ne veux pas dire. C'est grave comme perspective. J'ai dû vous indiquer à ce moment-là. L'importance de la figure de Joseph dans le christianisme, dans l'islam d'autre part, puisque toutes les institutions d'évangélisation s'appellent les institutions Saint-Joseph, chez eux. Je ne sais pas si vous avez fréquenté ces écoles chrétiennes. L'enseignement chrétien pour chrétien, c'est les jésuites. L'enseignement chrétien des missions d'évangélisation, c'est les institutions Saint-Joseph. Il y en a une à Jérusalem. Et alors, hors Joseph, là-bas, ils ne se rendent pas compte de ce qu'il fait. Dans l'histoire de Joseph, il y a deux périodes. Il y a la période diaspora. Et lorsque Joseph fait le diagnostic de l'échec de la diaspora, lorsque cet échec advient, il advient toujours dans un risque de catastrophe, alors c'est Joseph qui déclenche le retour. Et il déclenche le retour dans le profil que je vous ai indiqué. C'est apparemment les Juifs les plus assimilés qui ont décidé ce diagnostic, cette prise de conscience que si on continue la tentative de diaspora jusqu'au bout, on disparaît. Or, de notre temps, bien qu'ils n'étaient pas les seuls, mais la force politique, bien que l'inspiration soit venue des rabbins, mais la force politique du sionisme est venue des juifs les plus assimilés. Et si peut-être, je ne sais pas, les desseins de la Providence nous échappent, peut-être qu'ils devaient s'assimiler pour pouvoir être sionistes, à l'origine. Alors c'est pourquoi je vous ai parlé de ces deux Shlavim, okay. Et alors, la Libye de la diaspora, c'est l'orthodoxie anti-sioniste. Joseph ne s'est jamais présenté comme un pratiquant de la Torah. Il apparaît comme un juif assimilé. C'est le Midrash qui dévoile que c'était un tzaddik, mais avec des versets différents que les versets des Kénitzot. Je veux dire, le tzaddik, je pense qu'il est dans le Midrash Tanchuma, plutôt le Midrash Rabba. Dans le désert, il y avait le Aaron de Yosef et des autres frères d'ailleurs, qui accompagnaient le Aaron à Kodesh. Et alors les goïms demandaient Mativo Shelze, et les Hébreux répondaient celui qui est là a accompli celle qui est là. C'est-à-dire Joseph a accompli la Torah. Et en citant dix versets, qui ne sont pas les dix versets des dix commandements, mais des midot. Vous avez compris le sens de ce midot. C'est-à-dire c'est à la fin de sa vie qu'il se dévoile que Yosef était tzadik. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cela, à quel point c'est systématique. Dès qu'on dit Yosef, c'est ça. Yosef, l'adjectif qui vient, c'est tzadik. Comme pour Shimon. Pour Shimon, c'est pour une autre raison. Shimon a un goral, un profil très difficile, très dangereux. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a un tzadik qui s'appelle Shimon, on l'indique. Shimon a tzadik. Vous avez compris ? C'est intéressant. Et alors, finalement, ça va dans la même kivoun, mais des shlavim très différents. Et remarquez, il y a une chose que j'ai remarqué en sociologie israélienne, il y a une espèce d'alliance contre nature entre les Israéliens chilonim, Joseph, de la deuxième période, et les orthodoxes anti-sionistes, Joseph, dans ce cas-là. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'analyser, n'est-ce pas ? Les gauchistes israéliens désignent comme étant la Torah qu'ils respectent, mais qu'ils ne pratiquent pas, mais qu'ils respectent, celle de l'Agudat Israël, pas celle du Mizrahi. Parce qu'ils ont beaucoup plus peur du Mizrahi, parce qu'ils ont une Torah sioniste. Tandis qu'ils n'ont pas peur de l'Agouda, parce qu'ils ne seront jamais comme eux. Et en plus, ça leur sert d'épouvantail. Vous voyez, c'est ça la Torah, n'y allez pas. Et est-ce que c'est clair, ce que j'ai dit ? Il faut être dans les prochaines élections. Mais il semble bien qu'il y a une espèce de flirt, il y avait de flirt historique entre les partis religieux et Dafka, la gauche israélienne, et comme ils ont été déchirés dans les partis religieux, parce que la gauche israélienne, quand elle fait des gaffes, elle en fait, alors ils ont basculé du côté des Likoud. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça a de souvent parlé avec des Israéliens de gauche. De cette chose incompréhensible et qui est grave, qui est catastrophique au niveau de l'avenir de la société israélienne, cette alliance entre les sionistes chilonim, auxquels le Rafouk Zatzal le père a assigné une fonction positive dans le sionisme religieux, bien qu'il ne soit pas religieux, et d'autre part les orthodoxes anti-sionistes, qui ont bien évidemment un énorme coup du point de vue de la Kedusha du milieu plus pratique, ce n'est pas le cas des chilonimes, mais qui se présente plutôt, je dirais pas tellement Joseph, comme Laban, c'est-à-dire l'ancienne manière d'être hébreu, c'est-à-dire araméen, qui veut rester araméen. L'ancienne manière galoutique, qui veut rester galoutique. Et je ne sais pas si c'est clair. Taguit Beirut. Bien, je suis noir. Il est mis à faire. Alors que Yehuda est mis à faire. c'est-à-dire pour Yehuda, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça réussit, il manque le quatrième shlav tout de suite. Gamarno, l'égoïme perdu. Je vais à la limite, Ken. Alors que Yosef, non, il faut s'occuper des guéris. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, gentiment, Ken, ça c'est Yosef. Mais il y a le risque de l'auto-suicide pour sauver les autres. Yehuda a fait que c'est un échec. Et par conséquent, on va condamner comme traître celui qui veut reprendre ce halom. Rappelez du verset et on verra qu'est-ce qui viendra de ce rêveur et de ses rêves à propos de Yosef. Et comment dire ça autrement, peut-être pour compléter. Vous allez voir ça dans les Midrashim. Qu'est-ce qu'il Rashi au début de la paracha de Vayeshev? Bitesh Yaakov Avinu la Shevel Beshalva. Kafastalo, Ronzo. Alors les Mefarshim kabbalistes expliquent qu'il y a une différence entre Shalva et Shalom. Il avait le droit de rentrer en Shalom Elvetabi. Mais Shalva Tzadikim, Enlaya Menucha, Lobar Lamaze et Lobar Lamaba. Et tant qu'il y avait des guérims à faire, on ne peut pas rester Béchalva. Et alors c'est Yosef qui perçoit cela, et son objectif, c'était de convertir l'Égypte. Bon, c'était un rêve utopique et qui a échoué. Il a essayé de le faire à sa manière, pas Alpia Alacha. Hein, et vous reliez ça avec quand Moshe a converti le Erevav, pas Alpia Alacha non plus, parce que c'était urgent, il fallait le faire. Bon, pas Alpia Alacha. Là, je n'ouvre une parenthèse parce que j'ai dit une chose trop abrupte. Hein. Vous avez un livre de Shemot avec Rashi, c'est dans la paracha qui dit ça. Je vous citais Rashi, etc. Relonim Lachtab. Pardon. Voilà, je vais vous dire exactement quel est le verset. Voilà, vous avez Rashi sur le verset 7 du chapitre 32. Alors Rashi dit Shichet Amecha Shichet Ha'am lo ne'ema Ela Amcha Erev Rav Shekibalta Me'atzmecha Vekiyachtam Velo Nimachtabi Vamachta Tov Sheidveku Gerim Bashchina Hem Shichtu Vishchit. Ça veut dire que Moshe a pris l'initiative d'accepter le Erev Rav en Israël au moment de la sortie d'Égypte. Et qui était le Erev Rav? C'était tout un ensemble d'hommes et de femmes d'autres peuples qu'Israël et d'autres peuples que l'Égypte, qui étaient aussi asservis en Égypte comme Israël. Et par conséquent, ils avaient eu l'expérience de la foi d'Israël, c'est-à-dire Galut Geoula. Et ils ont voulu sortir avec la sortie d'Israël de l'Égypte et Moshe les intègre. Or, au moment de la faute du Hodor, il se dévoile que c'est eux qui ont pris l'initiative de la faute du Hodor. C'est clair. Alors donc Dieu intervient et dit à Moïse, l'Echret qui chichet Amcha, ton peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ton peuple? Ce peuple que tu as accepté, toi, de ta propre initiative, sans prendre mon conseil. Or, finalement, Dieu va dire à Moïse, ça va. Dieu va accepter cette initiative de Moïse. Mais vous voyez qu'il y a ici un métage, une tension entre deux mythes. L'initiative de Moïse, il fallait le faire parce qu'il y avait un cas d'urgence, j'expliquerai après. Mais Alpi Alacha, il ne fallait pas le faire. La preuve, c'est qu'il s'est dévoilé une catastrophe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manquait aux Hébreux pour que le Giour soit Kahalacha? Il leur manquait l'éducation du Bérechéré de la Torah des six générations de Abraham à Moïse. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, un goy qui accepte les Mitzvot sans accepter les Mitzvot d'Israël, son Giour n'est pas est bancal. Est-ce que c'est clair? Mais alors, il faut comprendre pourquoi Moïse a pris cette initiative. Vous avez étudié ce parachat de Kitissa? Ça, c'est un argument de sociologie israélienne contemporaine. comme il y a peu d'Israéliens, alors il vaut mieux prendre des guérims que des juifs qui viennent pas. Mais c'est un argument positif d'ailleurs. D'ailleurs, un des arguments qui ont été avancés pour le problème des Arabes en Israël, c'est tout simplement de les convertir, on résout 14 problèmes à la fois. Il y en a qui ne demanderaient pas mieux. Quel? Tu veux dire que Moïse espérait que, avant même le matin de Torah, je ne sais pas comment te dire, au moment de la sortie, ils sont venus dire on va avec vous, bien. Est-ce qu'on a le temps de penser à une stratégie quelconque? Il y a une autre raison. On peut raisonner comme ça, mais ça ne suffit pas. Il y a une autre raison plus centrale, plus immédiate. Hein? La faiblesse de qui? Eh bien, tu dis la même chose que lui. Oui, encore une fois, je vais te dire, je reprends le premier argument que tu as dit. Vu leur faiblesse des Bnei Israël, mais les autres étaient tout aussi faibles, c'était aussi des esclaves asservis. On aurait pu dire, bon, en quittant l'Europe, on a pris avec nous des goïms pour être, je sais pas moi, pompiers, maçons, adjudants, on savait pas. Okay? C'est pas le cas. Vous voyez ce que je dis? Et maintenant, le fait que Moïse ait un profil, une capacité de berger, et donc il s'occupe de l'autre, et l'autre c'est d'abord le goy, tout ça c'est vrai, mais ça répond pas à notre problème. Parce que c'est se mettre en question d'une catastrophe. D'accord, on les accepte, mais il leur faut la préparation d'identité qui éviterait cette catastrophe de Heta Hegel. Vous avez compris le... Bon, ça se rattache à... Moi ?
Oui, la vocation universelle.
Mais la vocation universelle, vous voyez comment ça se rattache à Joseph, elle a ses dangers propres. Et la Matara ne peut pas suffire, les Akdish et Taïm. C'est-à-dire, la Matara, elle est légitime et noble. Mais lorsque les moyens pris mènent une catastrophe, la Matara, on peut attendre 6000 ans. Okay? La vocation universelle d'Israël, c'est la réussite messianique ultime. Mais si les moyens que l'on prend, ça fait échouer la tentative messianique, il ne faut pas les prendre. Et en fait, c'est qu'une des fonctions de l'exil, c'est de ramener les convertis. Et par conséquent, si on ne les avait pas fait sortir, Moïse était sûr qu'il fallait retourner en exil, il ne voulait pas. Est-ce que c'est clair? Puisque son argument, c'est de dire, rappelle-toi la promesse que tu as faite à Abraham, Isaac et Jacob, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Okay? Alors c'est à cause de cet argument. Si vous voulez, je vous donne le plaidoyer dans la prière de Moïse. Retenez, dans la paracha de Tikitsa, il y a deux prières de Moïse. D'abord, il plaide pour Israël. Et ensuite, il plaide pour le Hélévav. Parce que si on détruit le Hélévav, Israël est perdu. Alors, il plaide pour Israël. Le raisonnement est le suivant. Pour sauver ton peuple, sauve mon peuple. Dieu avait dit à Moïse, ton peuple a fauté. Et qu'est-ce que Moïse répond? Sauve ton peuple. Et pour sauver ton peuple, pardonne à Oelevra. Et une fois que Dieu a pardonné, alors le Oelevra est devenu d'Israël, maintenant il faut prier pour lui, parce qu'il va être jugé par la loi d'Israël. Est-ce que c'est clair? Tant que l'Oelevra est en dehors d'Israël, il n'est pas jugé par la loi d'Israël. Maintenant, quelle était la faute d'Israël? Parce que tout ce que j'explique là, ça a l'air, comment dire, de déculpabiliser les Hébreux eux-mêmes. Or, en fait, les Hébreux sont aussi coupables, bien que la faute ait été faite par le Hélévav. Ça, vous l'apprenez du verset qui est très clair. Il dit Elé Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Qui peut parler à qui pour dire voici ton Dieu Israël? C'est le Hélévav qui parle à Israël en disant Elohecha. C'est clair? Et il y a aussi une autre indication. Et vous verrez, chaque fois qu'il s'agit d'Israël, on emploie le mot de Yetziat Mitzrayim. Chaque fois qu'il s'agit du Hélévav, c'est Alia. Et Asher et Elita, c'est le Hélévav. Asher Otseta, c'est Israël. Vous verrez bien, dans tout le Mikra, dans tout le Tanakh, il n'y a pas d'exception. Si je vous dis ça, c'est parce que si vous voyez une exception apparente, c'est une exception apparente, il faut l'étudier et vous verrez que c'est pas une exception. Et remarquez que ce thème que lorsqu'on vient de Ruth Laaret en Eretz Israël, ça s'appelle Alia. Reste valable, okay? Mais c'est vrai pour celui qui a besoin de la mahriket aliyah, sinon il ne viendrait pas. Okay? C'est clair, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous savez qu'on arrive à un stade où maintenant, pour faire la halia, il faut la faire malgré la sortie. Ça, c'est une vraie étude administrative. Hein? Oui, c'est Aremis que nous les parents. Alors, je vais vous dire l'argument. Mais vous connaissez cette blague israélienne. Comment on fait pour être millionnaire en Israël? On arrive milliardaire. Ben, voilà, c'est le verset 13 du chapitre 32. Zechor le Abraham, le Yitzhak, ou l'Israël, Avadecha, Asher Nishbat, Alaem Bach, Batedaber, Alaem, Arbe, Zarachem, Zarachem, Kechorbe Hashamayim. Or, qu'est-ce que Kechorbe Hashamayim? Alors là, vous avez tout ce thème de la comparaison entre les 70 nations et les 70 arimes qui dirigent les 70 armées célestes. Enfin, ça, on bascule dans un autre niveau, mais c'est pour vous indiquer. Quand il y a Kechorbe Hashamayim, ça veut dire que Israël doit être à l'exposant de l'universel humain, de toutes les nations. Quand c'est Kechol Hayam, c'est une autre histoire. Okay? Et c'est là l'argument que Moïse a. Elle dit voilà, il faut accomplir cet aspect de la promesse, c'est-à-dire ramener la Erevra. Si on ne le ramène pas, Israël ne peut pas sortir. Or, on a sorti la Erevra par une initiative accélérée. Comment dire, je crois que l'expression contemporaine la plus claire, c'est « Giyur shelo karalacha », dans l'espoir que Mitor shelo lishma balishma, et que Moïse pouvait avoir l'espérance que on les convertit d'abord et on les éduque ensuite. Et puis voilà, ça a éclaté. Mais que Dieu accepte l'initiative de Moïse, c'est évident, sinon il n'aurait pas pardonné. Mais il doit la condamner, tout en l'acceptant. Je vous donne un autre exemple. Quand Moïse a brisé l'étape de la loi pour sauver Israël, il y a un midrash qui explique sur les versets Talochot Asher Shibarta, Yashar Kohachash Shibarta. Le verset dit les tables que tu as brisées, le midrash intervient, il faut lire les tables que heureusement tu as brisées. Que Dieu le félicite de les avoir brisées. Pourquoi? Du point de vue du pshat, j'ai pas besoin que tu as brisé. On sait très bien de quelle table il s'agit, ils étaient brisés par Moïse. Okay? Donc, chaque fois qu'il y a un lachonier tour, qu'il y a un mot de plus, de trop, apparemment, le midrash explique. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine manière cachée, Dieu a félicité Moïse d'avoir brisé les tables de la loi. Pourquoi? C'est ce que Dieu attendait. Tant que les tables de la loi sont là, le peuple est disqualifié. Mais si la loi est mise en parenthèse, il n'y a pas de faute. C'est vrai? Seulement, Dieu ne peut pas briser les tables de la loi, parce que la loi est vérité. Alors il attend, il espère que Moïse les brise. Dès qu'il les brise, il dit « Bravo, t'es mère ». Mais surtout, il ne fallait pas le faire. Vous voyez, il n'y a pas de contrainte. Alors, c'est la même chose que pour la Erevra. Okay? Tu as mal fait, heureusement que tu l'as fait. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous n'entendrez jamais ce qu'on dit, je vais en parler. Une yeshiva, nekuda. Orthodoxe, c'est un adjectif slave. C'est ce que je raconte toujours aux kélotes faradiotes. À quel point les ashkenazim ont été plus intelligents qu'eux. Les ashkenazim n'ont jamais appelé leurs institutions institutions ashkenazes. C'est juste. Alors que les faradim se mettent une espèce de qualificatif appendice restrictif. Vous avez compris? Non. Communauté séparate. Donc, et alors, il faut être espagnol pour être juif. Voilà. Communauté juive. C'est vrai. La galoute, la séparation, elle est légitime. Il faut attendre des siècles avant que ça s'unifie. Si Dieu veut un peu avant. Mais c'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire, les Ashkenazis, on fonde des institutions, ils ne les ont jamais appelés Ashkenaz. Pourquoi énormément de séparatistes vont chez eux? Parce que plus ou moins inconsciemment, ils se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond. Est-ce que c'est clair tout de suite? Vous savez peut-être que je suis séparat, hein? D'origine. Bon, voilà donc pour ta question. Il y a une autre question sur ce sujet? Ah oui, je n'ai pas répondu. C'est ne pas avoir été capable d'empêcher. Tout simplement. C'est quoi ? Le fils de Aaron. De Myriam. Oui. Et regarde, ce que tu dis, c'est un peu à côté de la réponse que j'ai donnée. Pourquoi il s'est fait tuer ? Parce que, Bichlal, les Bnei Israël n'ont pas pu empêcher que le Hélévar ait la force de faire ce qu'il a, y compris de tuer le. Et comment ça peut arriver que les étrangers qui sont dans le camp peuvent tuer le fils de Hur et personne ne bouge le tuyau ? Ça veut dire qu'il y a une faiblesse. Je crois que là, on peut aller le voir, coup de ça. Et j'ai l'impression qu'on est accompagné par ça jusqu'à la fin des temps. Et je dirais comment, mais je voudrais vous donner un verset. Quand Moïse demande à Josué, quel est ce bruit que j'entends ? Alors Josué dit, c'est ni un bruit de victoire, c'est ni un bruit de défaite. C'est un bruit. Ça veut dire qu'il y avait égalité de force. Vous vous rappelez du verset ? Donc, et il semble qu'on est accompagné par cela, c'est assez extraordinaire. Chaque fois qu'il y a un problème où il faut décider, le peuple se divise en deux sur n'importe quel problème que ce soit, 50%, 50%. Et alors, la loi qui passe à la Knesset, c'est par miracle une voix supplémentaire qui vient d'un petit parti pour lequel il faut lui payer son pesant d'or. Okay ? Vous avez remarqué ça ? Ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire, Josué lui dit, j'entends pas qui gagne, qui perd. Okay. On est à la veille des élections. Non, c'est Josué qui dit ça. Je crois qu'une fois, il y a quelques mois, peut-être un an et demi, tu as posé la même question, j'ai eu la même réponse, il me semble, mais tu étais assis, pas dans cette salle, et par là-bas. Attends, je t'aime. Ah, d'accord. Vaishma Yoshua et Kolaam Bereo. Vaïomer el Moshe, Kol Milhama va Mahane. Vaïomer, En Kolaanut Gerura, En Kolaanut Halusha, Kolaanut Anokhi Shomea. Si c'est différent. Mais le Kirchak, mais il me semble que tu avais déjà pris. Il faut avoir une façon, mais les Kirchak de Baru. Il y a une autre question. Oui, shalom, ça veut dire que. C'est pourquoi j'ai étudié le verset. Quand Yaakov part à Haran, Ken, et au moment de la vision des anges à Bethel, alors il dit Veshapti Beshalom El Betami. Donc, quand il revient, et que le verset dit Vayeshev, et le Midrash, vous verrez, dit En Yeshiva El Rashon Tsar. Rien à faire avec les Yeshivot en tout cas. Là où il y a Vayeshev, avant le temps, quand c'est anticipé, et c'est dangereux. Alors, Bikesh, Yaakov Avinu, la Chevet Beshalva. Beshalom, il aurait eu le droit, comme il demande. Alors, ta question, c'est que Beshalva, c'est tranquillité. Tranquillité, koratruah. Alors, c'est pourquoi j'ai rattaché, peut-être un peu trop rapidement, à ce que vous trouvez à la fin de la Maseret de Brachot. Tzadikim, en lahem menucha, lo ba'olam hazeh, lo ba'olam haba. C'est un thème très important et très général. Tant que le Olam n'est pas arrivé au Gmar HaTikoun, n'est pas arrivé à Eliot Shalem, un tzadik ne peut pas rester Beshalva. Il ne peut pas être vraiment en Menucha. Parce que, je ne me rappelle pas la page, mais vous avez dans Maseret Brachot Davka que celui qui reste une semaine sans rêver Nisra Racha. Parce qu'on ne peut pas avoir un sommeil tranquille tant que le monde est au Bara. Okay. C'est la définition du rachat. Il y a une complaisance avec l'état du monde. Alors l'histoire d'Abraham a commencé dans une révolte contre l'état du monde. Et donc il y aurait une négation de la vocation d'Abraham de l'Ovi. Et Yaakov a pu penser que l'éventualité des 400 ans de Galout qui était indiquée à Abraham, c'est lui qui les a réalisés, c'est lui qui les a, comment on dit, intégrés, épongés, je ne sais pas comment on dit lequel, effectués. Et donc, il voulait non seulement être Béchalom, mais Béchalva, Kamarnou. Et alors, Rozo chez Yosef, le Halom de Yosef, le Bouchon. Et vous voyez de quoi il s'agit, le Halom de Yosef. On reprend le bâton du juif errant pour aller voir ce qui se passe chez les Goïm et pour savoir si, par hasard, on ne peut pas sanctifier les Égyptiens. Vous voyez, ce Halom de Yosef est terrible. Okay. Non, il y a pas qui continue, mais il faudrait que tu me rappelles à quel moment j'ai parlé de ça. Pas qui continue. Je crois que j'ai dit ceci. Oui, c'est-à-dire que quand tu parlais de la tendance à l'universel, j'ai dit elle a ses propres dangers. Et on voit bien que Moshe est encore sur la lancée de Joseph. Bien, la mutation Joseph-Moshe est irréversible, mais il faut l'intégrer. Et Moshe, pendant très longtemps, est en porte-à-faux avec Israël, jusqu'au moment où, en fin de compte, il reconnaît qu'il est d'Israël et quitte Midian. Mais pendant 40 ans, il cherche à Midian à remplacer Israël. Okay. Ce n'est que lorsque Dieu, que lorsqu'il nomme son fils Gershom, qui guère a été avec Moria, que Dieu se révèle à lui avec la voix de son père. Okay. C'est-à-dire qu'il faut que l'effort que Moshe s'identifie à sa propre lignée hébraïque paternelle pour raccrocher et devenir le Moshe Rabbeinu de la Torah, de Navi. Jusque-là, le Midrash dit était Tiron Banevoua, jusqu'à l'âge de 80 ans. C'est-à-dire l'Ashpa de l'aventure Joseph le tient jusque-là. Il faut qu'il s'en dégage. Alors on a cette tendance, de même que Joseph, d'emblée, à une échelle anarchique, l'Égypte, d'accord, l'Égypte, on va se l'hébraïser, ok ? Et avec tous les dangers que ça représente, mais je vais ajouter quand même quelque chose. Et, encore une fois, la Torah nous raconte ça pour nous raconter l'échec. À l'échelle individuelle, on a sauvé des individus. Mais les goïms comme tels, c'est incorrigible, je ne sais pas comment dire, inéducable. C'est pourquoi la Mishnah dit « Hasidé ou Mota'ola Mishraim Chedekor » Il y a des Hasidim, cela, on peut les sauver. Et les Goïm comme tels, c'est « Rishot Gumura » La France, c'est « Rishot » Les Français, il y a des Tzadikim, des Hasidim. L'Empire britannique, il n'y a pas plus « Rishot » que ça. Notre histoire en témoigne. Il y a des Britanniques, « Gentlemen », je ne sais pas comment. Alors on peut les sauver. La Russie, Dieu préserve. L'Allemagne, pire, okay, et le reste. Okay. C'est-à-dire, les goïms comme tels, à tout bout, va t-il. Mais les hommes des goïms, ceux-là, on peut les sauver. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Okay. Je connais un peu la culture française, enfin un peu bien. Okay. Je peux vous dire que la France comme État, c'est un monstre. Les Français, c'est sympathique. Quand ils sont sympathiques. En tout cas, à vue d'Israéliens, parce que les Juifs qui vivent en France, ils ont exactement la réaction inverse. Ils aiment la France, ils détestent les Français. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Nahon, non seulement ils détestent, mais ils méprisent. Mais ils croient que les Français ne s'en rendent pas compte. Ça a l'air d'être paradoxal, mais au fond, c'est très clair. Et c'est une réaction de défense. Parce que si les Juifs de diaspora aimaient et la France et les Français, c'est fini. Il n'y a plus de barrière. Quand je dis la France, je ne parle pas des paysages de France, je ne parle pas du pays, je parle de l'État. Quand on fait écrire l'histoire contemporaine comme elle doit être écrite, on s'apercevra à quel point la France a été le pire ennemi d'Israël dans les temps que nous vivons. Et ces juifs de diaspora, aveuglés, on ne sait pas quoi, qui continuent à voter d'Afka pour le parti politique français le plus anti-israélien. Je ne vous ai pas fait propagande, d'ailleurs les élections ont lieu. Et ça continue. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être prendre le passage concernant Judas. On a encore Yehuda. Une demi-heure. Alors, vous allez prendre le chapitre. Alors, je vais lire un survol, comme ça, et on s'arrêtera de temps en temps pour une explication supplémentaire, mais finalement, non, je crois que le texte parle par lui-même. Alors, Vaïi Baetaï. Vaïi Baetaï, il arrive en ce temps-là, c'est-à-dire pendant que la Torah avait commencé à raconter l'histoire de Joseph et son aventure, et on sait déjà, on pressent que ça va mener à l'échec. L'échec se dévoilera au début du livre de Shemot. Pendant ce temps, la Torah ouvre une parenthèse pour nous raconter la tentative de Judas. Vayered Yehuda Metecha. Oui, un premier livre ici. C'est le chapitre 38. La Masrette, hein? 38. Je reprends. Vayi Baetaï, Vayered Yehuda Metecha, Vayet Ad Ish Adulami Ushmo Hira. Et il a planté sa tente, il s'est étendu littéralement jusqu'à un homme de Adulam, Namatré, qui se nomme Hira. Dès le début, dès le début. Il va contracter alliance d'amitié avec une des personnalités du pays de Canaan. Vous savez, chaque fois qu'il y a Ish, c'est Adam Hashou. Ish, ça veut dire une personnalité. Ish, Anashim, a priori, ça dit-il. Alors ici, il y a un thème important, la civilisation de Canaan est disqualifiée. Mais il y a des tzadikim parmi eux. Et d'ailleurs, nous avons un midrash important qui explique qu'au moment de la sortie d'Égypte, tous ces tzadikim sont morts, et quand les explorateurs sont arrivés, ils ont vu des enterrements grandioses. On enterrait les tzadikim de Canaan. Pour quelle raison il fallait que les tzadikim de Canaan meurent? Ça, c'est un thème que vous connaissez. Un tzadik, quelque part, il protège l'endroit où il est. Alors, pour que Israël puisse facilement prendre le pays de Canaan à la sortie d'Égypte, il fallait que cette protection que les tzadikim donnaient aux Canaanim disparaissent. Il y a aussi une autre clause. Il y a eu des guerres. Et ils ont fait prisonniers des tzadikim de Canaan pour les emporter ailleurs. Ça, on l'apprend à propos de Kitetzel Amichama, la Eshetish, Ken, Eshetifatoa, c'est Neshama Teora. On l'apprend de Veshavita Shilio. Vous verrez dans Rashi, et tu feras captif les captifs que tes ennemis avaient faits. Quels captifs? Des Cananéens. Et alors, là, dans ces captifs, chez les Amoréens ou chez les autres, il y a des femmes de Canaan qui sont réprimées tzadik, c'est pourquoi la Torah va régulariser leur mariage. Tu connais cet homme? Vous allez dans la parasha de Kitetzel. Donc. Alors, dans tous les cas, nous voyons qu'il y a des tzadikim dans Canaan. Quel est le thème? Il est très simple. Il n'est pas possible qu'il y ait une collectivité humaine sans qu'à l'échelle individuelle, il n'y ait pas des chassidés au monde arabe. Ça n'existe pas. Okay? Rappelez-vous donc la différence de statut entre Israël et les Oumataolam. Kol Israël et Shaim Cheleklaolam Abba, Velou Shaim. C'est-à-dire Israël Biprinat Klal à Cheleklaolam Abba, à l'échelle individuelle, toutes les chassidés Shalom sont possibles. Les chassidés Shalom. Tandis que pour les. Pour les Oumataolam, c'est l'inverse. Oumataolam, en laem, chelek laolam abba, bal chassidim shebaem yeshlaem. Vous avez compris la. Top. Donc il s'agit de Hira, qui est un tzadik des Cananéens. Vayarsham Yehuda, batish Canaani, ushmo Shua. Et là, Judas a vu la fille d'un tzadik de Canaan, et qui s'appelait Shua. Pour anticiper, parce qu'on a peu de temps, je vais vous indiquer qu'on a découvert qu'en phénicien, Shua, ça veut dire Tamar. Et quand on arrivera à Tamar, j'expliquerai la relance. Le palmier, Shua. Donc, vérifiez dans un dictionnaire phénicien. Croyez pas sur parole, je ne suis pas phénicien. pas encore. Grâce à Dieu. Vaïkahéa, il l'a prise pour femme, Vaïaboéléa. Vatahar, Vatelet Ben, elle conçut, elle enfanta un fils, Vaïkra et Chemon Aer. Et il le nomma Aer. Vatahar, Od, Vatelet Ben, elle conçut encore et elle eut un fils, Vaïkra et Chemon Onam. Jusque-là, on ne sait pas que Aer et Onam sont des Chaïm. Et par conséquent, jusque-là, on voit que la suite des Toladot reprend. Avec qui ? Avec une Cananéenne qui est donc la première tentative dans le pays avant que ce soit le rôle d'Israël, avant que ce soit le tour d'Israël. Vous voyez, ce qu'il y a eu comme sainteté antérieure dans le pays. Vato Sevrod, elle ajouta encore, Vatelet Ben, elle enfanta un fils, Vatikret Shemo Shela. Le pshat, vous verrez dans les traductions.